Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Eh oui, le vendredi, veille du week-end, on aime bien pendant une heure parler sport tous ensemble avec vous, Philippe David.
Et puis ça va être du 100% football aujourd'hui, mon cher Philippe. Vous supportez quel club?
Ah bah moi, quel club? j'aime bien le Paris Saint-Germain et j'aime beaucoup Marseille.
Et on va parler du Paris Saint-Germain qui a eu un plutôt pas mauvais tirage pour son quart de Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame. Ensuite, on va parler de l'OM. Ensuite, on va parler des Girondins de Bordeaux. Ça va faire plaisir à Maxime Sénal, réalisateur du week-end, qui est un fan des Girondins. Et ensuite, on va conclure avec un des clubs historiques, 17 ans de Ligue 1, mais qui descend, le Toulouse Football Club. Là, notre ami Emmanuel Galasso qui est un peu tristounet.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Je vais suivre tout ça de loin.
Les vraies voix du sport en compagnie d'Elton Mokolo. Salut Elton.
Bonsoir à tous.
D'Emmanuel Galasso, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas raté. Salut Emmanuel.
Salut Philippe, salut à tous.
Avec Eric Nazali, notre champion de football de table. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Et on devra avoir Augustin Morio qui devrait nous rejoindre. Et on a avec nous Clément Pernia, auteur du livre Une histoire populaire du PSG, publié chez Hugo Sport. Salut Clément.
Salut Philippe, bonsoir à tous.
Et tu es en train, on peut dire quand même une chose que les gens ne savent pas, tu es en train d'écrire un nouveau livre sur le PSG.
Voilà, on espère que l'issue sera belle avec cette Ligue des Champions en août.
Ah ben ça c'est parfait, on espère aussi.
Il va falloir attendre la fin du mois d'août pour avoir le titre, du coup.
À jamais les seconds.
Il y aura les 50 ans du PSG quand même.
Ah oui, là ce serait bien pour les 50 ans. Voilà. Alors justement Clément, on va tous débattre. Moi, je voulais le Red Bull Leipzig. Je me disais en 1, Red Bull. En 2, Atalanta Bergame. Faute de Grive, on prend des petits merles. L'Atalanta Bergame, c'est quand même pas le pire tirage qu'on pouvait prendre.
Bah, si on est assez factuel et qu'on ne prend pas en compte le contexte actuel et les dynamiques, oui, c'est un bon tirage. On peut pas nier ce fait-là. On évite le Bayern, on évite le Real, le Barça, etc. Et d'ailleurs, la partie de tableau, puisque c'est un tirage intégral, est favorable au PSG, puisqu'en cas de victoire, c'est Leipzig ou l'Atletico en demi-finale. Après, parler de foot en écartant le contexte, c'est pas possible. Et le contexte fait que le PSG va jouer contre une équipe qui est quasiment inarrêtable aujourd'hui. Le seul point négatif qu'a le Bergame aujourd'hui, ça pourrait être son inexpérience en Ligue des Champions, puisqu'il me semble que c'est sa première participation.
Oui.
Sauf que là, l'Atalanta est troisième de Serie A, n'a pas perdu depuis le 20 janvier. Et la meilleure attaque est de loin du championnat italien avec 85 buts, que ça joue super bien.
11 victoires d'affilée, je crois.
Voilà, je sais pas le nom du joueur. Et qu'en face, t'as un club qui n'a toujours pas repris, qui est en phase de reprise, qui va clairement manquer
de rythme, de dynamique tactique,
etc. Donc, oui, ça paraît. Le PSG paraît plus fort sur le papier, mais dans les faits, l'Atalanta devrait être beaucoup plus fort que le PSG en août. Donc pas facile.
Elton, le climat portugais, c'est mieux pour les Français ou les Italiens ?
C'est très compliqué parce que absolument on parle de deux pays latins, donc ça devrait convenir à tout le monde. Oui. Mais sur le plan footballistique, c'est vrai que l'Atalanta nourrit un fantasme. On parle de l'équipe qui a le plus marqué en Europe. C'est plus de 100 buts, compétition confondue. C'est une équipe qui a vaincu effectivement depuis début janvier. Mais pour autant, la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est la compétition de la peur. On ne peut pas seulement conditionner un passage en demi-finale de la Ligue des Champions avec seulement l'aspect jeu. Ça veut dire que ça réunit beaucoup de composantes, dont le facteur émotionnel, le facteur expérience. Et là, force est de constater que l'Atalanta est déficitaire par rapport au PSG.
C'est vrai. Eric ?
Oui, Clément a déjà dit beaucoup de choses, Elton aussi. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que dans le tableau du PSG, sur les quatre qui sont là, enfin l'Atalanta plus éventuellement en demi-finale, il n'y a pas les monstres sacrés qui sont tous...
Ils sont tous de l'autre côté
et qui sont tous avantagés par les arbitres. Donc là, sur ce coup-ci, il n'y a pas la Juve, il n'y a pas Real, il n'y a pas Barça. Précisé.
C'est sûr.
Voilà, donc déjà, les pénaltys seront plutôt pour Paris.
Oui. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ?
C'est une info, déjà, on commence fort. Mais je suis en partie d'accord avec Elton, parce que je pense que ce facteur expérience en Ligue des Champions, il s'exploite beaucoup plus sur des matchs aller-retour que sur un match. Et je pense que je suis pas convaincu, j'avoue que je suis assez indécis sur ce tirage. Je pense qu'il vaut mieux prendre Leipzig, qui est plus faible, quitte à prendre une équipe faible, ou prendre carrément un Real ou une équipe contre qui Paris peut se sublimer. L'Atalanta, je pense qu'ils vont pas les prendre, de haut, mais ils ont quand même des caractéristiques qui peuvent vraiment mettre en difficulté le PSG. Sur un match, je ne suis pas convaincu que ce facteur expérience, finalement, avantage tant que ça le Paris Saint-Germain.
Clément, justement, je te pose une question, tu réponds également à nos amis. Est-ce que finalement, la chose amusante, c'est que l'Atalanta, c'est une équipe italienne, mais qui ne joue absolument pas à l'italienne ?
Ah bah non, ça joue pas du tout à l'italien. Ouais, ça joue bien déjà.
Ça joue bien. Et alors, par contre, ils ont un côté italien. Il leur faut pas 25 occasions pour en mettre une au fond.
Ouais, ils ont beaucoup marqué, c'est on l'a déjà dit. Ils jouent beaucoup avec dans un dispositif en 3-5-2. Du peu que j'ai pu voir, du moins. Et il y a un truc que le PSG, c'est factuel. Le PSG ne rattrapera pas le rythme physique d'ici là. Le PSG n'a que deux matchs officiels, c'est les deux finales de coupe d'ici la Ligue des Champions. Et ça, si le PSG bat Bergame, ce sera pas sur la dynamique physique et le rythme. Ce sera sur autre chose. Ce sera sur une cohésion d'équipe. Ce sera sur une dynamique mentale, psychologique et sur l'expérience, ou plutôt sur l'inexpérience de Bergame. Sur l'aspect physique et l'aspect rythme, le PSG, impossible qu'il puisse rattraper ce retard. Donc, faudra aller chercher la qualification ailleurs. J'avais envie de te dire, si le PSG avait joué contre un gros, le fait qu'il n'y ait qu'un seul match, ça aurait pu l'avantager. Là, le fait de jouer Bergame, peut-être qu'un match aller-retour, ça aurait été mieux.
Oui, bien sûr.
Oui, ça, c'est possible. Elton, tu voulais réagir.
C'est vrai que l'Atalanta est une équipe contre-culturelle par rapport à ce qui peut se présenter en Italie. C'est-à-dire que Gasperini, qui est l'entraîneur de l'Atalanta, se revendique revendique l'Atalanta comme une équipe qui est héritière de l'Ajax des années d'antan. Et donc, on voit il y a un élément de filiation qui fait que l'Atalanta est une équipe qui est très offensive, c'est une équipe qui est protagoniste dans le jeu, et c'est une équipe qui aura beaucoup, beaucoup de fil à retordre à donner au PSG.
Oui, il revendique la philosophie de jeu de Cruyff, mais il a aussi des joueurs, alors que c'est pas l'Ajax de l'époque, hein, Philippe, parce que sinon tu vas quitter le studio. Ouais. Mais
excuse-moi, mais devant Red Cruyff, Renzenbrink, c'est dur de faire mieux quand même.
On va pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a la chance, entre guillemets, d'avoir des joueurs qui rentrent aussi dans sa philosophie de jeu et qui permettent de jouer comme il veut jouer. Après, voilà. Est-ce que c'est l'Ajax, on les a vus très forts il y a deux ans Europa League,
ils avaient fait un beau parcours en Ligue des Champions. Et ils se font sortir par Tottenham, on ne sait pas comment.
Voilà, moi, ce sera intéressant.
Le meilleur match de Lucas Moura de sa carrière.
Oui, au passage. Ce sera intéressant de voir sur la durée, est-ce que l'Atalanta perdure sur les saisons ce genre de performance.
Ça fait deux années de suite quand même, hein, la Serie A.
Oui, sur la Serie A, Il faut dire qu'il y a certains clubs qui sont au fond du trou en Serie A. Hein. Tu prends le Milan AC qui joue à Ligue des Champions pendant des années, ils sont en bas.
La Fiorentina,
etc. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a pas mal écrémé du côté. Et on va terminer quand même avec notre jeu des pronostics. J'aime bien, tu sais que Eric, tu m'as mis un truc en tête, Clément, je suis sûr que tu vas être d'accord. Fondé en 1970, 2020, ça fait 50 ans. Une coupe aux grandes oreilles pour fêter son demi-siècle, ce serait peut-être pas mal, non, t'y crois ?
En plus, vu le scénario, ce serait typiquement dans l'ADN du PSG de la gagner cette année, la Ligue des Champions Covid, parce que dans cette histoire qui a démarré il y a 50 ans, rien n'a été normal, quelque part.
Ça, c'est vrai.
Tout a été toujours à contre-courant, il y a toujours eu des imprévus, des aléas. C'est un peu un rendez-vous manqué, en fait, le PSG. Que je dis toujours, et peut-être que l'année où la plus folle, où la Ligue des Champions est la plus improbable, bah peut-être que c'est cette année que le PSG va gagner. Du moins, le tableau pourrait le laisser entendre, mais encore une fois, au vu du PSG ces dernières années, l'Atalanta a tout d'un piège et d'un
oui, en écoutant Clément, je me dis finalement, n'est-ce pas mon cher Emmanuel, qu'il faudrait peut-être prendre Jean-Claude Duss au Mercato, parce que sur un malentendu, on peut peut-être y arriver, c'est ça.
Jean-Claude Blanc.
Thiago Silva, c'est pas sûr que Thiago Silva soit sur la feuille, du coup, hein, contre l'Atalanta.
Ah bah face à des attaquants rapides, Thiago Silva, c'est plutôt rapides, inquiétant. Voilà. Et votre pronostic, alors les gars, ils vont passer l'Atalanta?
Moi, je vois tir au but.
Ouais, pas de problème. Tu vois les tirs au but aussi?
Moi, pareil, tir au but aussi.
Ouais, moi, je suis d'accord.
PSG en prolongation.
Il n'y a pas de prolongation.
C'est tir au but direct.
Ça va directement.
À 90 minutes, c'est tir au but.
On peut faire un match pour toi, si tu veux.
2-2 tir au but.
Et qui passe au tir au but, parce que c'est quand même le plus intéressant?
Paris.
Oui. Ils ont des bons tireurs quand même.
C'est là que l'expérience va jouer, le tir au but.
C'est là où les nerfs vont jouer. Eh bien, écoute, on croise les doigts, on touche du bois, en espérant que le PSG arrive à ramener pour ses 50 ans la coupe aux grandes oreilles, parce que. On peut le souhaiter aux Lyonnais aussi, bien sûr, mais ça va être plus compliqué vu la moitié de tableau qu'ils ont. Parce que s'ils sortent la Juventus, après, c'est déjà Manchester City ou le Real Madrid. Et après, un peu plus si affinité, le Bayern Munich ou le Barça. Merci beaucoup Clément, et on parlera bien sûr de ton nouveau livre lorsqu'il sortira sur Sud Radio. Dans quelques instants, on était à Paris où on écoute Sud Radio sur 99.9. On va aller du côté de l'OM, de Marseille, où on écoute Sud Radio sur 95.1. On sera en compagnie d'Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence. Il se passe beaucoup de choses du côté de la Canebière et du boulevard Michelin en ce moment.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport.
Philippe David.
Retour des vraies voix du sport, la dernière de la saison d'ailleurs. Là, on est en train de ranger les crampons en compagnie, enfin, ils sont rangés en France depuis maintenant 4 mois, en compagnie d'Elton Mokolo, Emmanuel Galasso et Eric Nazali. On était à Paris, on parlait du Paris Saint-Germain, direction la Canebière, boulevard Michelet plutôt, direction Marseille. On est en compagnie d'Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence. Salut Alexandre.
Salut.
Bienvenue salut sur Sud Radio, tiens. À jamais les premiers, c'est un des slogans des supporters marseillais. Quand tu as vu le tirage au sort de la Ligue des Champions, ça a dû te faire saliver, sachant que l'OM va jouer la Ligue des Champions ben, dans 2 mois maintenant.
Oui, bien sûr. Ouais. Bon, après, on va voir bien. Écoutez, on est focalisé sur une autre histoire, c'est l'histoire du rachat, pseudo-rachat par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjelal. Là, c'est un peu compliqué en ce moment autour de l'OM.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de rachat? Parce que là, c'est vraiment une histoire marseillaise. Hein. Ça me rappelle un peu, je vais être cruel, l'affaire Kashkar.
Oui, ça rappelle. Alors, moi, je dirais plutôt que pour l'instant, ça rappelle Pablo Dana. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Pablo Dana, c'était un banquier italo-suisse.
Oui.
Qui s'était présenté il y a 4 ans en expliquant, j'avais d'ailleurs fait une interview de lui, en expliquant qu'il était à la tête d'une tour de table, d'un consortium d'investisseurs venus de Chine, venus de Moyen-Orient, dont on n'a jamais su qui il était réellement, ça n'a abouti sur rien. Alors il était venu une fois à Marseille, il avait dîné avec Vincent Labrune quelques fois à Paris, à Marseille. Mais c'était surtout une grande bouche, quoi. Et aujourd'hui, le problème avec ce dossier à Ajroudi, c'est qu'on n'arrive pas à savoir. Alors évidemment, Mourad Boudjelal, on va pas critiquer Mourad Boudjelal avec tout ce qu'il a fait sur le rugby. C'est quand même un grand monsieur du sport. Donc quand on sait qu'il y a Mourad Boudjelal là-dedans, on se dit que c'est sérieux. Après, on n'arrive pas vraiment à savoir qui sont les investisseurs derrière Monsieur Ajroudi, parce que il se contredit d'interview en interview. Il a fait une première interview sur l'AFP. Il expliquait qu'il n'y avait pas de Saoudiens. Aujourd'hui, il a fait une interview dans le Figaro. Il explique qu'il y a des Saoudiens, des Israéliens. Donc, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que la banque d'affaires qui a été mandatée, la banque Wingate, elle, c'est une banque sérieuse. Même si elle a été créée il n'y a pas très longtemps, c'est une banque sérieuse qui a travaillé sur le rachat de Naf, de la Grande Récré, qui est en train de travailler sur le rachat de Camailleux. Bon, c'est une banque sérieuse qui n'a pas trop d'expérience en revanche dans le foot, même si elle était, elle a travaillé sur avec le candidat. Alors je me rappelle plus non exactement le candidat ivoirien qui voulait racheter Lens, mais ça ne s'est pas fait. Elle a juste travaillé sur ce dossier-là à l'époque. Mais c'est une banque sérieuse. Après là, on essaie de démêler tout le vrai du faux, parce que du côté de Franck McCourt, on explique vraiment et on insiste sur le fait que le club n'est pas à vendre et ne sera pas en vente prochainement. Donc c'est vraiment un dossier on va dire, c'est vrai que ça passionne un peu les gens et les gens parlent davantage de ça que du sportif, ce qui est un peu dommage.
C'est la sardine qui est en train de boucher le vieux port là, Emmanuel. Ouais, voilà.
Oui, alors surtout que là, il y avait un premier chiffre qui était sorti, c'était 700 millions, qui a été démenti. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est que tant que Franck McCourt et le clan McCourt ne dira pas le club est à vendre en fixant un prix, on peut pas savoir la réelle valeur, enfin à quel prix ça peut se vendre. Ajroudi donne des chiffres, puis enlève ses chiffres. En fait, on n'arrive pas pour l'instant à jauger quel peut être le prix. Est-ce que Franck McCourt dit qu'il n'est pas à vendre pour le vendre plus cher, ou est-ce qu'il dit qu'il n'est pas à vendre parce qu'il ne veut pas le vendre? Est-ce que c'est un peu une partie de poker qui est en train d'être en cours? Et là, les déclarations d'Ajroudi par rapport à Zidane, il a dit, il a fait comprendre qu'il voulait Zidane et Cristiano Ronaldo, et Boudjelal est tout de suite venu éteindre le feu de...
Oui, parce que là déjà, quand tu es sous le coup du fair play financier, tu dis Zidane et Ronaldo, là, du côté de l'UEFA, la fumée qui
donc
sort.
Donc là, Boudjelal est arrivé en disant on se calme, tout va bien.
Il y a la fumée qui sort des oreilles de Seferine, là.
Surtout qu'à Marseille, il y a vraiment quelque chose que les gens ne supportent pas et les supporters ne supportent pas, c'est les vendeurs de rêves. Oui. Je veux dire, Jacques-Henri Hérault l'a appris à ses dépens, à force au début, quand il a commencé à parler de Diego Costa, comme McCourt a parlé de Griezmann. Je veux dire, ces déclarations-là, ils se les prennent encore en pleine gueule 4 ans plus tard. Franchement, parler de Zidane et de Cristiano Ronaldo, aujourd'hui à Marseille, tout le monde rigole, parce qu'on sait très bien, alors surtout Cristiano Ronaldo, à la limite, peut-être que Zidane viendra un jour s'asseoir sur le banc de l'OM, ça ce serait que mieux, mais Cristiano Ronaldo, bon, à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, quoi.
En fait, on a l'impression qu'à Marseille, ils jouent aux cartes Panini, quoi. Ils ont des noms qui leur viennent comme ça, ils s'échangent des cartes, mais c'est pas vraiment le foot.
Bah, il y a eu Maradona quand même à Marseille pendant plusieurs années de suite, hein, comme vendeur de rêve.
C'est vrai.
Oui, malgré tout, hein. Oui, mais Maradona a vraiment failli venir.
Non, oui, ça c'est vrai. Lui, ça joue un peu.
Drogba reste quand même le plus gros vendeur de rêve de l'histoire de Marseille. Ça fait 15 ans qu'il revient.
Elton, tu veux réagir ?
Oui, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit la semaine dernière, à savoir que pour l'instant, il y a un poker menteur, c'est-à-dire que du côté de la direction, enfin du côté de Franck Marco, il y a circulé, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est en train de planifier la saison prochaine, on est en train d'investir à travers le marché des transferts, on est en train de faire des prolongations de contrats. Maintenant, la balle est dans le camp des potentiels acheteurs, c'est-à-dire du côté de Mourad Boudjelal et d'Ajroudi. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'ils arrivent avec les coups des franges et avec des garanties solides. Là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils soient, pour l'instant, cohérents dans ce qu'ils disent d'une semaine à une autre, voire d'un jour à l'autre.
C'est vrai, c'est pas vrai, Alexandre ? Oui, Eric, ah oui, je veux faire réagir Alexandre.
Ils ont un gros problème de communication. Je veux dire, à un moment donné, quand on commence à parler comme ça, c'est soit, bon, le dossier, il est pas bon et on essaie de se mettre en valeur médiatiquement, sauf que Mourad Boudjelal, il a pas besoin de ça. Je veux dire, à un moment donné, Mourad Boudjelal, il prend de gros risques là parce qu'on est en train, il est en train de, le risque, c'est qu'à Marseille, on se souvient davantage de lui maintenant pour cette histoire-là que pour Toulon. Alors que ce qu'il a fait à Toulon, c'est extraordinaire.
Oui, trois titres de champion d'Europe. S'il reprend l'OM et qu'il fait trois titres de champion d'Europe à la suite, vous lui faites une statue en haut de la canière. Là, c'est sûr et certain.
Généralement, quand on parle comme ça, qu'on sort du bois comme ça dans un dossier de rachat, c'est que c'est cuit. On se rappelle, Gérard Lopez, il avait fait fuiter l'histoire de Bielsa. L'OM était officiellement en vente, mais quand le dossier Gérard Lopez a fuité et que tout le monde en a parlé dans la presse, c'est que c'était déjà cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fin de compte, nous, ce qu'on essaie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que est-ce que le club soit pas en vente, c'est une chose, mais bon, si demain quelqu'un arrive avec 700 millions d'euros,
Les Américains, l'Américain, lui, il voit son pognon. Donc, si le chèque sur la table est assez gros, il n'a pas d'attachement au foot, il savait même pas que ça existait le foot.
Alexandre, c'est comme quand on dit qu'un joueur n'est pas transférable. En fait, psychanalytiquement, ça veut dire il faut mettre le bon nombre de zéros sur le chèque.
C'est tout.
C'est ça, mais Macourt a déjà dépensé 350 millions d'euros environ.
Si on lui met 700 sur la table, il repart demain matin.
On ne lui mettra pas 700 pour lui sur la table, mais s'il y a vraiment le chiffre qui a circulé au départ, il n'est pas sorti de nulle part non plus. Le chiffre, ce n'est pas les journalistes qui l'ont inventé. Le chiffre de 700 millions d'euros qui est sorti au départ, c'était pour l'acquisition, donc le paiement du club à Franck Macourt, pour éponger les dettes et pour investir sur le mercato. Bon, ce chiffre-là, il paraît cohérent pour quelqu'un qui veut racheter l'OM, parce que Franck Macourt ne partira pas en laissant 1 euro à l'OM. Il n'est pas venu pour ça. Donc en fait, moi quand j'entends l'entourage de Franck Macourt dit vraiment que l'OM n'est pas à vendre, je suis vraiment aujourd'hui, je ne suis pas certain à 100% que l'OM soit en vente. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas du bluff.
C'est pas du bluff. Enfin, si, c'est peut-être du bluff à long terme.
Mais c'est
une histoire marseillaise. Hein.
Tu bluffes, Martoni.
Si on fait le parallèle de ce qui s'est passé avec Béziers au rugby, c'était pas fait. C'est pas. Voilà.
Ouais, exactement.
Pour finir, ça se fait avec Dominici et ses investisseurs.
Ouais. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que tout ce brassage médiatique, finalement, ça sert à quoi? Peut-être que c'est déjà arrivé, on a cité des exemples tout à l'heure, peut-être qu'Ajroudi, il veut juste se mettre en avant, il a des intérêts à côté, complètement hors du foot, et qu'il veut juste se montrer, se faire connaître.
C'est possible.
Et Boudjelal, après peut-être, admettons, peut-être que Boudjelal est aussi prisonnier de ça, il n'est pas au courant. En fait, il y a plein de possibilités, ou alors Franck Macourt et le clan Macourt bluff, il est à vendre, il se passe vraiment des choses.
Mais
c'est quand même étonnant qu'il y ait autant de bruit autour de ça, et que concrètement, les choses ne se fassent pas plus clairement et plus rapidement.
Alexandre.
Oui. Moi, par exemple, à titre d'exemple, il est décédé aujourd'hui, il est mort du coronavirus en fin mars, Pape Diouf,
oui.
Ces 10 dernières années, bon, je l'ai écrit dans le journal demain matin, je n'avais jamais trop écrit, ces 10 dernières années, il avait souvent été contacté par des investisseurs du Moyen-Orient. Et il s'y était même rendu une fois, au Moyen-Orient, il s'était aperçu très, très rapidement que les projets qu'on lui vendait, qu'on lui présentait étaient totalement déséquilibrés, que tout était bancal.
Ouais.
Le problème est là aujourd'hui, c'est que Pape Diouf connaissait le football. Après, je suis pas certain que Mourad Boudjelal connaisse vraiment le football. Il connaît le sport, mais on est dans des montants d'investissement et on est dans des degrés de mensonges qui sont largement supérieurs à ceux du monde du sport dans tous les autres sports. Le monde du football, c'est peuplé de requins, le monde de football.
C'est pas un monde de philanthropes.
Voilà, c'est peuplé de menteurs, c'est peuplé de personnes qui ont leurs propres intérêts. Je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans, Mourad Boudjelal. Je le vois, franchement, autant je le voyais pas trop à Toulon non plus, au Sporting Club de Toulon.
C'est pas un dauphin, Boudjelal non plus.
Non plus, c'est pas. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un dauphin, mais le risque qu'il a, c'est vraiment de décorner son image, quoi.
Oui, 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 bien sûr.
Surtout dans un club comme l'OM. Enfin, je veux dire, à Toulon, il essaye de dire que les Toulonnais, les supporters marseillais doivent se réconcilier, mais à Marseille, au stade de l'Odrome, dans les années 80, on se chantait, et Bordeaux, c'est des, bon, je vais pas me passer le terme, mais c'est Toulon, c'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est des insultes, elles étaient pour les Bordelais et pour les Toulonnais. Dans les années 80, on détestait davantage les Toulonnais que les Parisiens au stade de l'Odrome.
Oui.
Donc, il arrivera jamais à réconcilier les Toulonnais, les Marseillais, c'est pas possible.
Oh, s'il arrive à leur faire gagner un grand titre, on peut toujours se réconcilier.
Oui, mais avec lui, mais pas avec lui.
Merci,
ouais,
merci beaucoup, Alexandre Jacquin.
Il y a Franck Macourte qui appelle derrière.
Chef adjoint du service des sports de la Provence. On parlait des Girondins de Bordeaux. On se rappelle de la rivalité entre Bernard Tapie et Claude Bèze, oui, à l'époque où Bordeaux et l'OM
les années disco,
dominaient
Philippe.
Le football français. Oui, c'est
ça. Quand tu avais des cheveux.
Oui, c'est ça, fin des années 80. Milieu des années 80, début des années 90. Et bien, on va prendre la direction de Bordeaux dans quelques instants où on écoute Sud Radio sur 106. On se retrouve dans quelques instants.
C'est honteux!
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Les vraies voix du sport avec Elton Mokolo, Emmanuel Galasso, Eric Nazali est là. On était à Marseille, on avait commencé par Paris, on continue notre Tour de France. Direction Bordeaux, on est en compagnie de Giggs, supporter de Bordeaux qui a plus de 43 000 followers sur Twitter. Salut Giggs.
Bonsoir à tous, merci pour l'invitation.
Ben avec plaisir, bienvenue sur Sud Radio, on nous écoute à Bordeaux sur 106. Alors cette semaine, à Bordeaux, c'est le mélodrame des entraîneurs. On parlait de blanc, ça rappelle de bons souvenirs, hein. Le dernier titre, un quart de finale de Ligue des Champions en 2009 et 2010. Gasset, et maintenant on va même chercher outre-Rhin, enfin même s'il est à Kobe, Thorsten Fink, l'ancien joueur du Bayern.
Ouais, on a un peu entendu beaucoup de choses autour de Bordeaux cette semaine. Maintenant, avant de trouver un entraîneur, il va peut-être falloir essayer de maintenir le club en Ligue 1.
Ouais, bah, lui, il s'est maintenu, hein, contrairement à Amiens au TFC. Hein.
Oui, bien sûr, il s'est maintenu sportivement. Maintenant, la grosse inconnue à Bordeaux, c'est comment le club va rester en Ligue 1 après l'examen à la DNCG, parce qu'on n'en parle pas trop. Il y a énormément d'opérations de com autour de Bordeaux où on essaye de faire croire que tout va bien. Mais je tiens quand même à rappeler que l'examen devant la DNCG a été repoussé, alors officiellement pour un problème d'agenda. Or, au final, à Bordeaux, ce qui se murmure et ce qui est plus ou moins connu de tous, c'est qu'en fait, ce n'est absolument pas un problème d'agenda, mais un problème d'actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, King Street n'a plus les actifs nécessaires pour se présenter devant la DNCG sans risquer de grosses sanctions financières. Donc là, c'est un petit peu la course contre la montre pour le propriétaire du club, pour essayer justement de convaincre leurs clients de recapitaliser des actifs. Parce qu'en fait, King Street, c'est quoi? C'est des gens qui gèrent l'argent d'autres, mais avec le Covid, bah, ça devient compliqué de trouver de l'argent. Donc, en fait, le problème, c'est que à Bordeaux, on parle un petit peu de sportif, on essaye de faire un écran de fumée avec l'histoire de l'entraîneur, mais le problème, c'est la situation est bien plus grave qu'elle n'y paraît, en tout cas.
Ah bah on l'a vu, l'entraîneur, aujourd'hui, il tirait les boules à Nyon pour la Ligue des Champions.
Eh ben oui, un entraîneur qui est toujours pas parti et qui garde la confiance de son groupe, selon les dernières informations sorties dans la presse. Donc c'est quand même assez cocasse, c'est-à-dire qu'on a un entraîneur qui est toujours pas parti, qui a un temps demandé des indemnités alors que c'est lui qui donne l'envie de ne pas continuer. Donc c'est quand même assez cocasse. A priori, je vois pas comment le club pourrait lui donner les émoluments qu'il mérite, enfin qu'il réclame plutôt, parce que quand on voit que le club a à peine l'argent pour payer les déplacements pour le stage à Dinard, on se demande comment il pourrait payer 3 millions d'indemnités pour laisser partir le coach.
Ça, c'est pas faux. Elton.
Oui, justement. Bonjour, Giggs. C'est là où je voulais en venir. Depuis la semaine dernière, on parle du départ annoncé des Paulo Sousa, mais pour autant, là, c'est le statu quo. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Paulo Sousa de partir? Est-ce qu'il n'y a pas, à long terme, un affrontement entre Paulo Sousa et la direction, notamment sur un pouvoir à rattraper du côté du premier nom?
Ben c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une guerre de deux clans à Bordeaux. Le clan de Frédéric Longuepé, qui est un petit peu le sbire de King Street et auquel on a toujours maintenu la confiance. Finalement, Frédéric Longuepé est un peu tout seul aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en guerre ouverte contre les ultras et il est aussi en guerre ouverte contre son coach et son directeur sportif qui est Eduardo Macia. Aujourd'hui, a priori, Paulo Sousa et Eduardo Macia s'entendent toujours plutôt bien. Expriment le désir de bosser ensemble. Malheureusement, ils jugent de ne pas avoir les outils nécessaires et surtout les fonds nécessaires pour bien bosser. On a parlé, il y avait quand même un mercato qui était ouvert depuis un mois. On a parlé de certains joueurs qui auraient pu venir et au final, les finances étaient gelées. Donc c'est un petit peu ça. Je pense que Paulo Sousa est un petit peu dans l'attente de voir si, à force, peut-être que Frédéric Longuepé va peut-être être poussé vers la sortie. On sait qu'il y a le nouveau maire de Bordeaux qui pousse en ce sens. Donc ça fait quand même beaucoup de poids qui réclame la tête de Frédéric Longuépé, qui est un petit peu tout seul. On sait qu'au club, il est pas vraiment apprécié. Il y a aussi cette histoire de chômage partiel avec Anthony Tchodier, etc., qui mine de rien menace aussi les intérêts du président. Donc c'est vrai que c'est vraiment un flou qui est monstrueux. Et ça peut donner lieu, et de toute façon, je pense qu'il y a bien des gens qui vont partir. Donc est-ce que ça sera du côté de Longuépé à ce moment-là? Peut-être que Paulo Sousa peut envisager de continuer l'aventure avec des nouvelles garanties, mais ça me paraît quand même bien compliqué dans le sens où King Street, sportivement, n'a pas vraiment d'ambition derrière. Donc, à moins d'une revente immédiate, je ne vois pas comment Paulo Sousa pourrait trouver les clés pour mettre à bien son projet sportif.
Emmanuel.
Oui, d'autant que là, bon, en effet, on attend la DNCG, le passage devant la DNCG.
Ouais, alors, d'après
on
les
42 millions.
Oui, mais avec le Covid, où il y a eu beaucoup moins de rentrées pour les clubs, a priori, la DNCG pourrait
plus
se montrer plus compréhensive cette année.
Elle ne va pas reléguer Bordeaux pour la saison prochaine, de toute façon.
Ouais, bon, après, il y a aussi, il faut voir de quoi on part. Parce que si on parle de 42 millions, je pense que s'il y a un problème. Avant le Covid.
Ah oui,
on peut pas tout mettre sur le dos du Covid.
Bon.
Mais je pense que surtout, on parlait du rachat de Bordeaux, pour le coup, de Marseille, pardon. Là, on est sur deux cas totalement différents. Bordeaux.
Pourtant, c'est deux actionnaires américains.
Deux actionnaires américains. Mais Bordeaux, aujourd'hui, ils sont dans le flou. Au niveau. Sans mauvais jeu, flouze. Je voulais y venir. Ils sont dans le flou au niveau financier, enfin, au niveau économique,
c'est
avec
vrai.
Ce rachat. Ils sont dans le flou au niveau sportif.
Oui.
Ils sont dans le flou au niveau de l'image,
coaching.
Au niveau de l'identité du club, au niveau sportif, sur le terrain. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans un flou à tous les étages. Donc, c'est compliqué de...
Ils sont même au flou au niveau du stade, parce que le maire leur demande de le racheter.
Ouais. Ah, ils sont pas dans le flou, ils ont l'info, mais c'est bon, ça les arrange pas. C'est autre chose. Mais donc, c'est une situation quand même très compliquée, Bordeaux. Aujourd'hui, là, même Sousa, ça, je pense qu'il va dans cette faille-là, Sousa, parce que aujourd'hui, où est le pouvoir? On a l'impression qu'il est un peu dilué.
Il est dilué
dans ce club, le pouvoir. Et Sousa, il joue sur ça. Lui, il dit... Parce qu'en effet, techniquement, s'il démissionne, Sousa, il prend rien. Il
Exactement.
Prend pas un centime.
Oui.
Sauf que, sentant que les choses sont en train de... Si, admettons, une vente venait à arriver, peut-être qu'il y aurait plus d'urgence à le... Vous voyez, donc il joue sur ce... Il a raison, tant qu'à faire. Parce que je pense que là, ils vont pas le licencier pour lui donner 3 millions et lui faire plaisir. Mais on est vraiment... Bordeaux, enfin, j'ai pas souvenir. On demandera à notre réalisateur Maxime, qui est un grand fan des Girondins et qui connaît l'histoire du club. J'ai pas souvenir qu'ils aient déjà traversé une crise aussi large et aussi profonde de leur histoire.
Si, ils en ont traversé une, c'est quand Baize et Kou s'étaient retrouvés en prison. Là, ça avait été une sale affaire.
Mais il y avait des actifs au niveau du sport.
Là, mais
l'équipe,
là,
l'équipe,
ils avaient eu le président et le directeur sportif qui avaient fini en prison. Donc là, oui, Eric, et on fait réagir Giggs.
L'équipe de Bordeaux, elle n'est pas au niveau. Je veux dire, tous les actionnaires maintenant veulent faire du trading de joueurs, mais pour faire du trading de joueurs, il faut avoir des joueurs.
Ça, c'est vrai. Giggs, qu'est-ce que tu penses de ce que disaient Emmanuel et Eric?
Non, bah, globalement, c'est vrai qu'à Bordeaux, comme vous l'avez dit, dans tous les compartiments de ce que compose un club de foot, ça ne va pas. C'est-à-dire que vous avez dit, il n'y a pas d'actifs de joueurs particulièrement bons qui pourront. Parce que voilà, ce modèle de trading a fait énormément fantasmer. Maintenant, qui a vraiment réussi? Il y a eu Monaco passé un temps.
Oui.
Parce qu'ils ont fait une saison exceptionnelle et ils ont sorti des joueurs exceptionnels. Et au final, on voit que mine de rien.
Ils en ont vendu un seul à 180 millions d'euros.
Exactement.
Donc c'est sûr que ça met du beurre dans les épinards. Hein. Là, les 42
Bordeaux,
millions, ils sont oubliés.
Au-delà d'Mbappé, ils ont très bien vendu.
Qui vaut 15 millions d'euros à Bordeaux? On parle même pas 150, on parle de 15 millions d'euros. Il n'y a pas un joueur dont je pense que la valeur marchande dépasse 10 millions.
Le Château du Hayan, je pense qu'il vaut 15 millions.
Peut-être Yacine Adli sur un malentendu, encore que. Mais donc voilà, non, mais c'est sûr que ce modèle-là a fait fantasmer énormément de gens. Aujourd'hui, on voit qu'il a clairement ses limites. Et à Bordeaux, il n'y a pas de stratégie sportive. C'est-à-dire qu'on a recruté énormément de jeunes. Des jeunes qu'on n'a pas fait jouer. Je pense à Yacine Benraou notamment. Parce que le centre de formation bordelais est plutôt bon.
C'est oui.
Une des choses. Souvent sorti de bons joueurs. Malheureusement, quand on voit que parmi les meilleurs joueurs qu'on est sortis très récemment, comme Yacine Benraou, qu'on est arrivé à le prêter, on ne sait pas vraiment pourquoi, avec une option d'achat à 1,5 million, tous les Nîmois s'en gargarisent. C'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire que voilà, ça prouve qu'en fait, dans ce club, il n'y a pas de direction sportive. Donc en fait, c'est ça qui m'étonne un peu, c'est que j'entends qu'ils veulent faire de l'argent, mais s'ils veulent faire de l'argent, alors faites en sorte d'en faire. Parce qu'au final, on brade nos meilleurs joueurs. Enfin, nos joueurs les plus prometteurs, et derrière, parce que là, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Donc, globalement, je vois pas d'issue. Et puis, en plus, comme vous l'avez dit, il y a quand même un fossé qui se creuse avec les supporters. Moi, le premier, je vous le dis, hein, j'ai pris une distance qui, qui, qui est toute nouvelle dans ma vie par rapport à ce club, parce que ce club m'échappe, c'est plus mon club. On a changé notre logo, on a changé son appellation. Moi, on parle des Girondins de Bordeaux, mais j'ai envie de parler des Bordeaux Girondins, oui. Comme les Boston Celtics, parce que là, oui. Je parlais de l'actionnaire américain, mais ça aussi, c'est
faut quelque peut-être chose dire qui... les Bordeaux Girondins.
Voilà, exactement.
Pour faire plaisir à l'actionnaire.
Parce que mine de rien, pour les gens extérieurs, ça peut paraître un petit peu symbolique, mais quand on voit à quel point le club est dénaturé en interne, où ils ont viré tous les historiques du club pour faire venir des gens de supporters d'autres clubs, notamment beaucoup de gens parisiens ou des Américains. En fait, le club s'est totalement dénaturé et aujourd'hui, bah, ça crée une fracture monstrueuse avec tous les
acteurs. Il y a Dugarry qui est libre depuis hier soir. Quoi.
c'est ça, mais au
final, joueur historique des Girondins. Historique.
Voilà, alors
et
après,
qui a dégoûté le monde du foot.
Là, on voit justement, là, on est en plein dedans, notamment avec la rumeur Gasset. Ils essayent de se racheter un petit peu le cœur du public en évoquant d'anciens noms plutôt appréciés. Je vois qu'il y a Gires qui est pas mal cité aussi.
Roland
pas
Courbis
dans un rôle d'entraîneur,
Courbis. Mais, Courbis,
voilà.
Ouais. Courbis, c'est ancien ça, entraîne, c'est aussi, deux anciens c'est... joueurs et entraîneurs historiques du club. Voilà.
Ça aussi, c'est toute une petite opération de com' pour essayer. Mais là, la fracture, de toute façon, elle est beaucoup trop présente. Là, franchement, honnêtement, bien malin celui qui est capable de dire comment Bordeaux va s'en sortir. Pour moi, c'est la vente, elle est inéluctable. Le dépôt de bilan risque de venir assez vite au final, parce que je pense qu'ils lèveront jamais les fonds propres.
Non, mais ils perdent tout, aussi.
Mais après, il faut savoir quand même que pour ceux qui possèdent le club, Bordeaux, c'est une broutille. Hein. Pour King Street, en termes de financier, c'est rien du tout. C'est-à-dire que au final, eux, si leur image elle continue à être écornée avec tout ce qui se passe avec les ultras notamment, on connaît les Américains, ce qui leur intéresse, c'est plutôt ce soft power et plutôt l'image qu'ils renvoient au niveau financier. Écoutez, s'il coule un petit peu quelques millions, c'est pas énorme. Moi, j'ai quand même une petite pensée aussi pour nos amis de JACP, notamment notre ami Dagrosa, qui doit faire un petit peu le tour de la planète avec tout l'argent qu'il a mis à gauche lors de son passage à Bordeaux. Parce que ça, faut pas l'oublier, vous avez parlé du rachat de Marseille, mais nous, à la base, à la tête du projet, c'était quand même JACP. Qui a tenu un an et demi et qui a coulé le club et qui l'a mis dans la situation actuelle. Parce qu'au final, King Street n'a jamais eu prétention d'intervenir dans le sportif et c'est bien le problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis le soldat longue épée qui est reconnu comme un très bon businessman dans le monde de l'entreprise, mais qui n'y connaît absolument rien au football. Et toutes les personnes qui devraient intervenir dans le sportif, notamment Eduardo Macia et Paolo Souza, sont totalement bridées. Donc c'est vrai que les perspectives d'espoir sont moins là.
Emmanuel veut poser une dernière question.
Je pense que est-ce qu'aujourd'hui c'est pas la limite du modèle économique, j'allais dire français, mais ils font beaucoup en Belgique, ça se fait beaucoup en Suisse, parce que ces modèles de rachat là, concrètement.
Il y a eu des fiascos en Espagne aussi.
On se souvient de Malaga.
Malaga.
C'était un peu plus poussé que certains, Malaga. Ouais. Quand même. Ils ont réussi
Et c'était pas des Américains.
Voilà. mais en fait, c'est totalement des rachats totalement désincarnés. On sait pas qui vraiment rachète. C'est plusieurs fonds qui sont mis ensemble. En fait, c'est des appels d'une personne qui représente ce rachat. Plusieurs appels de fonds. Et moi, c'est juste une chose que je ne comprends pas dans cette logique. À la rigueur, ils veulent faire du trading. Ils veulent acheter des jeunes joueurs, les revendre, tout ça.
Mais c'est ça.
Mais le problème, c'est qu'à vouloir investir autant d'argent sur le scoutisme et envoyer des recruteurs et partout, au final, ils délaissent la formation. Si vraiment le but, c'est de vendre des jeunes, déjà commencer par investir dans son propre centre de formation, ce qui, au passage, permet d'avoir une petite identité de club, plutôt que de délaisser ça, parce que je pense que dans 10, 15, 20 ans, la génération 2018 qui a été championne du monde, ça va commencer à être compliqué. Si on se met vraiment à se faire racheter, parce que c'est en train vraiment de prendre de l'épaisseur, ces rachats, la formation va en pâtir, et l'équipe nationale...
C'est là tout l'enjeu pour moi, c'est-à-dire que... est-ce que le modèle de gouvernance venu des États-Unis, notamment avec beaucoup de fonds d'investissement, il est en adéquation avec la structure française? C'est-à-dire que pendant plusieurs années, enfin nous, on a un modèle entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage social qui est très important avec des patrons qui se sont installés localement et qui ont fait grandir des clubs. Là, on arrive du tout au tout, c'est-à-dire qu'on est passé d'un ancrage local, un ancrage territorial bien ancré, à quelque chose de désincarné, comme tu as dit, avec un mode de décision qui est éloigné de Bordeaux, par exemple.
Justement, pour une réponse brève, tu as entendu, Geeks, nos amis Elton et Emmanuel. Est-ce que quelque part, je vais te rappeler de bons souvenirs, les deux plus belles performances de Bordeaux en Coupe d'Europe, finaliste de Coupe de l'UEFA 96, il y avait un patron qui a été beaucoup critiqué, c'était Alain Fleuloup. Demi-finale de Coupe des Champions 85, il y avait un patron, ça s'est mal terminé, c'était Claude Bèze. Là, c'est une hydre, un fond, alors qu'à l'époque, il y avait vraiment un patron, un taulier.
Alain Fleuloup qui était un visionnaire.
Oui.
Vous avez tout dit et je pense que on peut pas mettre en lumière mieux le flou et le côté dénaturé que je rappelle quand même que lorsque JACP est arrivé à Pro a vendu son projet à King Street. Ils ont fait toute une petite plaquette à l'image d'un petit PowerPoint, c'est une plaquette physique, dans laquelle, à la fin, le stade qui présente était le stade Stadium de Toulouse. Donc en fait, ils ont
et puis les Bordelais, les Toulousains s'adorent.
Non mais ils devaient pas être forts en art plastique.
Ils sont arrivés avec une plaquette en disant voilà, parce qu'en fait, ce que vous avez dit, les Américains, eux, ils voient que acheter un club en France, ça coûte rien.
C'est vrai.
Moyennant maximum 200 millions. Ils ont spéculé sur une hausse des droits télé qui était censée être mirobolante. C'est pour ça qu'il y a eu tant de rachats ces derniers temps. Et du coup, ils sont arrivés, ils se sont dit ça nous coûte rien, on va s'en mettre plein les poches. Et ils arrivent sans connaître absolument rien du tout des clubs. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis le Stadium de Toulouse et ils nous ont vendu le projet Bordeaux avec des photos de Neymar en disant il y a Neymar en Ligue 1, donc les droits télé vont exploser. Donc, il faut racheter les Girondins de Bordeaux. Je vous invite à essayer de retrouver la trace de cette plaquette. Elle est exceptionnelle.
Ah ben on va regarder ça.
Mais à aucun moment, on ne retrouve les Girondins.
Merci beaucoup, Geeks. On a parlé du Stadium de Toulouse. On va se retrouver dans quelques instants pour parler de Toulouse. Alors, Geeks, tu as parlé de Neymar. 42 millions d'euros, la perte de DNCG. C'est un cinquième de Neymar. Donc, c'est finalement...
Neymar qui signe à Toulouse. D'ailleurs, on a eu l'info aujourd'hui.
En Ligue 2. Merci beaucoup, Geeks, supporter de Bordeaux et 43 000 followers sur Twitter. Dans quelques instants, direction la Ville Rose, où là, on est descendu en Ligue 2. Et on va faire le point avec Alexandre Roux, le président des Indians Tolosa, un club de supporters historique du TFC.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Retour pour la dernière des vraies voix du sport avec Elton Mokolo, Emmanuel Galasso, Eric Nazali, direction Toulouse, la Ville Rose. Où on écoute Sud Radio sur 101.8. On est en compagnie d'Alexandre Roux, le président du club historique de supporters, les Indians Tolosa. Salut Alexandre.
Salut.
Alors après cette descente, 17 ans, 17 saisons consécutives en Ligue 1, quelle est l'ambiance du côté de l'île du Ramier?
L'ambiance, elle est forcément particulière déjà pour les supporters, parce que malgré le nouveau championnat qui va démarrer, on ne sait toujours pas si on pourra revenir au stade, notamment.
Oui, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Hein.
Oui. Et puis, bon, après, on voit quand même que les choses bougent au sein du club, malgré le fait qu'on soit en Ligue 2. C'est quand même ce qu'on voulait voir depuis des années, du changement. Donc, aujourd'hui, on l'a, donc on va pas se plaindre.
Alors, justement, il y a un changement mercredi prochain. Un nouvel actionnaire américain, comme à Bordeaux, comme à Marseille. Comment s'est ressenti du côté de la Ville Rose l'arrivée d'un actionnaire américain? Parce que du côté du rival historique de Bordeaux, qui est 250 km plus loin le long de la Garonne, on a entendu Geeks il y a quelques instants, ça n'a pas l'air de marcher très bien.
Oui, après c'est quand même assez différent de ce qui se fait à Bordeaux. Déjà, Redbird, c'est un fonds d'investissement qui investit tout le temps dans le sport, contrairement au fonds d'investissement qui a racheté Bordeaux. Et puis ensuite, on voit que sur les premières choses qui commencent à se dessiner au TFC, on a quand même un président qui va être nommé, qui a un gros CV dans le football.
Damien Comoli.
Et qui est natif de la région, qui est natif de Béziers, donc qui est quand même du coin, si on peut dire comme ça.
Et qui a fait ses preuves. Hein.
Et on voit que sur les premiers hommes qui commencent à faire venir, il a refait venir notamment un recruteur qui avait déjà été au TFC par le passé. Donc déjà, sur ce qui commence à se dessiner, c'est pas des gens déconnectés de la réalité du TFC comme on peut avoir à Bordeaux avec tous les dirigeants et tous les gens qui travaillent dans les bureaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'étaient les Girondins avant.
Alexandre, un supporter historique du TFC, Emmanuel Galasso, veut s'exprimer.
Ouais, on va être de moins en moins nombreux. Mais oui, moi, je suis assez d'accord. Là, on sent l'identité, ils ont envie de replacer l'identité. Ils mettent un Biterrois en Comoli à la présidence. Ils essaient là, en tout cas sur la communication qu'ils font pour l'instant, les jeunes du centre de formation, ils essaient de les verrouiller. Bon, à part les Amiens, les Sangaré, tout ça, parce qu'il va falloir les vendre pour des raisons économiques. Mais les joueurs comme Diakité, Koné, qui sont un peu intermédiaires, par exemple, ils tiennent à les garder parce qu'ils sentent aussi, il y a une logique économique,
oui.
Faut pas être naïf, ils ont peut-être plus de valeur dans un ou deux ans.
Surtout si le TFC remonte en Ligue 1
rapidement. Surtout si le TFC monte en Ligue 1. Et je pense d'ailleurs que si on était resté en Ligue 1, tous ces joueurs seraient partis. C'est là où c'est paradoxal.
C'est paradoxal.
Que là, ils ont besoin d'eux et de leur faire prendre de la valeur, alors que sinon, ils auraient acheté des joueurs d'une gamme supérieure. Et en effet, ouais, c'est des Américains qui rachètent. Le cas est un petit peu différent. Maintenant, moi, j'ai du mal à avoir un avis tranché parce que je me dis, ça a l'air quand même d'être sur du court moyen terme, parce que leur idée, c'est juste de racheter le club, de le valoriser, de le revendre. dans quel état sera le club à la revente?
Ça, c'est une vraie question. Eric, tu veux intervenir?
Je crois qu'il y a quand même des certitudes. C'est que Comolli, c'est quand même un gars qui connaît très bien le foot, qui a réussi dans différents clubs, dans l'organisation, la mise en place de structures, etc. Patrice Garande, c'est effectivement quelque part...
Nouvel entraîneur.
Un vrai, voilà, un spécialiste au niveau de l'entraîneur, un spécialiste du beau jeu aussi. Enfin,
ancien meilleur buteur de Ligue 1,
de la France, hein, soyons clairs.
Champion olympique également.
Mais champion olympique, oui,
champion
84.
Champion olympique en 84. Un avant-centre meilleur buteur du championnat, un gars qui fait bien jouer les équipes qu'il a entraînées. Donc effectivement, pour valoriser les jeunes, ça peut être sympa aussi. Puis accessoirement, pour les supporters, de ne pas trop s'embêter au stade.
Justement, tiens.
S'ils reviennent.
S'ils reviennent.
Alexandre, t'as entendu ce que disaient nos deux amis. Et après, on donnera la parole à Elton. Le drame de ces dernières années au TFC, est-ce que c'est pas qu'on s'ennuyait au stade? Alors c'est sûr que c'était on parlait de Bordeaux où le jeu est soporifique, TFC c'était soporifique. Est-ce que le fait d'avoir comme entraîneur un ancien meilleur buteur de Ligue 1 à la place d'un gardien de but, ça risque pas de donner du jeu un peu plus excitant? Et j'ai rien contre Alain Casanova.
On va voir après en Ligue 2, c'est vrai que c'est pas le même jeu, c'est peut-être un peu plus haché et plus direct après aussi vers l'avant. Donc, mais de toute façon, si déjà il y a l'objectif de remonter, enfin, ce qui doit être l'objectif du club et qu'il l'est, c'est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer si on joue le haut tableau après toutes ces années passées en bas du classement en Ligue 1.
C'est juste une question, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'on joue contre Dunkerque pour le moi,
Dunkerque qui remonte de.
Oui,
de
mais j'ai rien contre Dunkerque, mais c'est vrai que j'avais plus l'habitude de voir ça à part en Coupe de France où. Ça fait mal
au
quand
mois de janvier, ouais.
C'est vrai que là, le déplacement à Dunkerque, il fait loin. Mais
non,
c'est les deux Carquois qui viennent, c'est ça.
Ouais.
Alexandre.
Non, c'est vrai que ça fait un peu bizarre en voyant le calendrier de se dire, ben ouais, on y est, ça y est, c'est la Ligue 2. Mais ça permettra aussi à tous les fidèles et les amoureux du TFC de se retrouver au stadium entre nous. C'est, j'ai envie de dire, il n'y aura pas ce phénomène sur certains matchs où il y a des Toulousains qui viennent supporter l'équipe adverse sur
Paris,
la
Paris, Marseille.
Oui.
Voilà, là au moins on sera entre nous et.
Moi,
je me
souviens d'un TFC Guignon qui me revient en Ligue 2 là. Et c'est vrai qu'en même temps c'est des souvenirs formidables quoi, parce que c'est un truc que tu vis une fois dans ta vie.
Ah,
quoi,
c'est
un
sûr.
TFC Guignon en championnat.
Oui, voilà, Elton.
Assurons qu'on le vive qu'une fois.
Elton.
Oui, c'était pour revenir par rapport au poste de Garande qui effectivement est un spécialiste des remontées. Il avait fait remonter notamment Caen. Je pense qu'il est capable de cerner les réalités de la Ligue 2, à savoir que Toulouse va être très attendu du fait que c'est une équipe qui vient
comme
de la Ligue 1.
Toute équipe qui descend.
Exactement.
Amiens sera très attendu aussi.
Exactement. Ouais. Et donc, il est capable de réunir cette réalité et cette capacité à faire bien jouer son équipe. Et c'est ce qui manquait à Toulouse, notamment, où il n'y avait pas quelque chose. Ça ne suscitait pas l'attente quand c'était en Ligue 1. C'est-à-dire que Toulouse était une équipe qui était là, mais faisait acte de présence ces dernières semaines.
C'était le ventre mou de la Ligue 1 avait été inventé pour le TFC.
Et c'est ce qui avait été reproché, je parle sous le contrôle de notre invité, à savoir que Toulouse, ça ne suscitait pas grand-chose.
Oui, mais ça avait quand même suscité. Avec les pitchouns, quand ils sont remontés en deux ans, entre 2001 et 2003, il faut se rappeler quand même que, quatre ans plus tard, ils sont en Ligue des Champions face à Liverpool, et avec des super joueurs, Elmander, Paulo César, etc., Alexandre. On espère que ça se repasse aussi bien pour la remontée. Là, il n'y a pas deux divisions à remonter, il n'y en a qu'une.
C'est tout ce qu'on nous souhaite, hein, de retrouver les sommets du championnat de France. Forcément, on en rêve.
Et faut être franc, à l'époque, c'était Eli Bop, l'entraîneur, c'est bien ça. Et il y avait du beau jeu au stadium.
Qui était aussi un ancien gardien de but.
Ancien gardien de but, oui, t'as raison. C'est pas vrai?
Il y avait une belle équipe.
Il y avait
3-1 face à Bordeaux la dernière journée.
Un
incroyable.
Match exceptionnel.
En plus contre Bordeaux, c'est du bonus.
Et de mémoire, 3 passes décisives de Paulo César, 3 buts d'Elmander.
Et un des Manas.
2 d'Elmander. Non, 3 d'Elmander.
C'est triplé d'Elmander.
Triplé d'Elmander. Ça te rappelle de bons souvenirs, je parie, Alexandre. Hein.
Ah ben forcément, on se souvient tous de ce soir-là au stadium.
Et du coup, on devient tous des vieux cons, quoi. C'est quand même c'est triste. Hein.
Je crois que personne n'est remonté jusqu'à Franck Passy.
Et le match contre Naples en 86, voilà, avec Maradona qui tire son tir au but sur le poteau. Merci beaucoup. Dernière question. La remontée, c'est pour 2021?
Ah ben, j'assure bien, là.
Est-ce que le changement, c'est maintenant?
Eh ben écoutez, écoute Alexandre, on espère la remontée du TFC, hein, club historique du Sud-Ouest, en Ligue 1 dès la fin de la saison qui commencera... 3000 guillemets, ça dépendra de l'évolution du Covid à la fin du mois d'août. Merci beaucoup à vous quatre, à Elton, à Emmanuel,
merci, à Eric.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h passé de 57 minutes dans quelques instants. Bah, vous savez quoi retrouver? Le best-of du Love Music d'Ivan Cujus. Restez bien avec nous sur Sud Radio.